et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 12 août 2016 que vous présente Berry Franklin Louchaka. La politique et la sécurité sont au cœur des débats de ce soir. En politique, le président de la République a déclaré la semaine dernière qu'il n'y aura pas de calendrier électoral avant le mois de juin 2017. Une déclaration qui n'a pas été du goût de la classe politique, dont la dynamique de l'opposition qui s'est étonnée que le chef de l'État se soit substitué à la CENI en violant intentionnellement, j'arrive, l'article 211 de la Constitution. Et puis en sécurité, Chimbulu, la deuxième ville du Kasaï central, était secouée le week-end dernier par la milice du chef coutumier Kamuna Nsapu. Le mercredi dernier, donc avant-hier, les habitants étaient en débandade et les forces de l'ordre ont réussi à reprendre le contrôle de la ville. Pour en parler, je reçois dans ce studio Pius Roland Romain. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et rédacteur en chef au journal Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Peter Tiani, bonsoir.
Bonsoir Véry.
Vous êtes directeur général du Vrai Journal, partenaire à Cité TV et certains autres médias quinois. Et en province, Cyprien Loussengue, bonsoir.
Bonsoir Franklin, bonsoir à tout le monde.
Vous intervenez à partir de nos studios de Radio Kapi à Goma. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef à la radio-télévision Michapi, un média émettant à Goma dans la province du Nord Kivu. Et je dis aussi bonsoir à Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de ce numéro. Et pour bien entrer en matière, voici la tribune de presse que vous présente Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. La presse kinoise est revenue sur l'interview du chef de l'État lors de son séjour en Ouganda. La situation sécuritaire à Chimbulu, au Kasaï central, ainsi que l'expulsion d'Ida Sayer continue à défrayer la chronique. La grève aux affaires étrangères et les remplacements de Bruno Mavungwa Lidepes sont aussi largement commentés dans la presse kinoise. C'est ainsi que le phare titre, les élections à la fin de l'enrôlement, la convention des républicains condamne les propos de Kabila. Et ce quotidien reprend les communiqués de ses partis politiques qui dit, suite aux propos tenus par le président de la République à Kasese en date du 4 août 2016, affirmant haut et fort qu'il n'y aurait pas d'élection dans notre pays en 2016, la convention des républicains s'étonne, s'indigne et s'interroge que le président de la République fasse cause commune avec la CENI dans sa volonté de ne pas organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Ce faisant, le président de la République, garant de la Constitution, cesse d'offrir les garanties habituelles que le peuple attend de lui, poursuit ses communiqués publiés dans les phares. Néanmoins, la CR, fidèle à sa ligne de conduite républicaine, exhorte le président Kabila à se ressaisir afin de sauver le pays du chaos en respectant lui-même et en faisant respecter la Constitution. Le potentiel de son côté souligne sous sa manchette Demkojo, un facilitateur atypique. Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, nul n'a souvenance qu'à un moment ou à un autre, un médiateur se soit imposé de force comme facilitateur d'un dialogue entre Congolais. Les facilitateurs récusés du dialogue congolais doivent véritablement être atypiques pour penser s'imposer de force, estime ce quotidien. Selon le bon sens, on ne s'impose pas facilitateur dans un conflit, on se propose facilitateur. Et ce quotidien de poursuivre en disant « J'y suis, j'y reste », le facilitateur vient de rappeler à la CENCO qu'il n'a nullement l'intention de démissionner. Or, présentement, le dialogue tant entendu se trouve bloqué par celui qui devait le faciliter. Sans un facilitateur accepté par les partis, l'on ne peut aucunement parvenir à organiser un dialogue qui soit véritablement inclusif, comme le recommandent plusieurs résolutions tant des Nations Unies et de l'Union Européenne que d'autres partenaires de la République démocratique du Congo. Au sujet des événements qui ont secoué la deuxième ville du Kasaï central, le phare titre « Chimbulu, le député Kankou exige une enquête impartiale ». S'exprimant à chaud à partir de Kananga où il est arrivé au courant de la journée de mardi, le député national Clément Kankou a suggéré qu'une commission d'enquête soit mise rapidement sur pied. À ses propos, son vœu est qu'elle comprenne aussi bien des représentants du gouvernement central, du parlement national, du gouvernement provincial, du parlement provincial, des services de sécurité, de l'armée, de la police, ainsi que des autorités traditionnelles et des autochtones. À son avis, on devrait éviter d'agir dans la précipitation et surtout de privilégier les recours à la force dans un dossier où il y aurait à boire et à manger. 7/7.cd titre, Ida Sayer, les États-Unis et l'ONU exhortent Kinshasa à revenir sur sa décision. L'administration Obama a appelé les autorités congolaises à revenir sur leur décision et a autorisé la chercheuse de Human Rights Watch, Ida Sayer, à reprendre son travail. Washington a exprimé sa vive préoccupation suite au refus de Kinshasa de renouveler les visas d'Ida Sayer. Radio-Capi.net évoque le mouvement des grèves aux affaires étrangères. Ce site rapporte que les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères ont déclenché une grève sèche depuis mercredi dernier à Kinshasa, sous l'encadrement de leur délégation syndicale et du syndicat du corps diplomatique. En conséquence, les missions diplomatiques sont privées des services. Aussi, cette situation va créer des difficultés dans l'octroi des visas et des passeports.
Merci beaucoup à vous, Guy Mathieu. Dans l'actualité, vous l'avez sûrement entendu, mes chers confrères, on a parlé des autorités congolaises qui ont refusé mardi 9 août de renouveler le visa de la chercheuse de l'ONG American Human Rights Watch, Ida Sawyer. Cette dernière est basée ici à Kinshasa depuis 2008. Elle disposait d'un visa d'établissement valable jusqu'en 2019 et ce visa a été annulé en début du mois de juillet par la DGM et le directeur de l'ONG américaine a déclaré dans un communiqué parvenu à Radio Capi que la décision du gouvernement est une tentative de museler les rapports sur la répression brutale du gouvernement de ceux qui soutiennent la limitation des mandats présidentiels. C'est une citation que je referme. Pius, comment vous avez analysé cette actualité?
Ouais, je trouve que les chancelleries ont exagéré et certains acteurs politiques ont exagéré. Ça revient de la souveraineté de la République démocratique du Congo de refuser de renouveler les visas à qui que ce soit.
Même quand la DGM a affirmé qu'il n'y a pas Ida Sawyer est partie d'elle-même?
Qu'elle soit partie d'elle-même, qu'on refuse de renouveler le visa, ça relève de la souveraineté de la République démocratique du Congo, d'autant plus nos compatriotes congolais qui vont dans d'autres pays, lorsqu'on leur refuse de renouveler les visas, je ne vois pas un acteur politique congolais, ni le gouvernement congolais donner les injonctions à tel ou tel autre gouvernement. Pourquoi cela n'arrive chez nous? C'est puisque l'acteur politique congolais a dénudé son pays. Même une mouche qui passe, même quelqu'un qui n'a aucune importance sur cette terre des hommes.
Comme Ida Sawyer voulait dire.
Elle n'a aucune importance, ce n'est qu'une ONG. Ici chez nous, nous avons des ONG. Elle a quelle décision à prendre sur la marche de la République, si ce n'est de vendre l'image négative de la République démocratique du Congo.
Et ces rapports, pour vous, sont biaisés?
Quel rapport? Nous avons, ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous savez que chaque jour, on tue les Noirs aux États-Unis? Avez-vous déjà entendu une ONG congolaise soulever un doigt? Avez-vous déjà entendu? Il n'y a qu'ici chez nous où certaines personnes qui prennent de l'argent dans des chancelleries qui se permettent à torpiller la République démocratique du Congo. Là, nous disons, moi, je suis congolais, je qui ai la mère patrie, c'est la République démocratique du Congo, je la défendrai jusqu'au bout de ma vie. Je suis congolais, je ne suis pas américain. Cette femme, elle est américaine. Si le gouvernement congolais a refusé de renouveler son visa, c'est de sa souveraineté. Donc, il n'y a pas un État qui peut demander à la République démocratique du Congo pourquoi vous n'avez pas.
Là, vous parlez en tant que journaliste ou vous parlez en tant que citoyen congolais?
Je parle d'abord en tant que journaliste parce que j'ai le devoir de défendre ma nation.
D'accord, merci. Peter, comment vous avez analysé cette actualité?
Déjà, assez biaisé d'entendre qu'aux États-Unis on tue les Noirs. Si aux États-Unis on tue les Noirs, ça veut dire qu'au Congo, on doit aussi tuer les Congolais. Cette comparaison rime à quoi? Vous avez entendu aux États-Unis où on parle de fosse commune? C'est quand même grave. La DGM dit que la dame est partie d'elle-même. Le gouvernement dit que la dame a été
expulsée.
Qui croire? Jusqu'à ce que
la
capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur. Plus à parler, est-ce que je ne peux pas étoffer mon argumentation? Je disais tantôt.
Très rapidement.
La DGM a dit que la dame est partie d'elle-même, le gouvernement dit le contraire. Mais ce n'est pas la première fois. L'affaire Katumbi, on a dit que son avion n'avait pas reçu d'autorisation ici. Un ministre nous a dit que c'était un menteur. Un autre ministre des Transports vient faire une lettre pour dire que non, on avait déposé la demande, mais on n'avait pas rempli les conditions. Je vais encore aller plus loin. L'affaire de mercenaires, un ministre nous a dit qu'il y en avait 600, après il y en a 100, après il y en a 80, après
mais
il n'y en a qu'un seul.
Revenons à ce dossier.
Quel crédit accordé? Okay. Mais justement, c'est un problème de crédit accordé à ce que les gens disent dans les médias. Où on prend les Congolais pour des canards sauvages.
Donc, ça signifie que vous êtes d'accord avec le directeur de l'ONG, Kenneth Roth, qui parle du musellement des organisations non gouvernementales sur la répression.
Vous n'avez rien à cacher. Pourquoi vous avez peur des activistes de droits de l'homme? Puisque vous n'avez rien à cacher. Souvenez-vous de l'affaire Scott Campbell. Fosse commune, l'opération Likofi. Kanyama aujourd'hui est sous le collimateur des Américains. Le gouvernement congolais a commis beaucoup de bourdes pour finir par là. la bourde avec l'affaire Katumbi et les mercenaires, aujourd'hui, il y a une plainte contre le ministre Thabo Mbeki et la GKF. La bourde, aujourd'hui même, l'affaire Gécoco, vous avez encore une bourde parce que l'ambassade britannique maintenant a réagi. Des bourdes en bourdes.
D'accord.
Vous n'avez rien à cacher. Nous sommes dans un pays où on nous a dit ici qu'on a parlé de fausses communes. On a commencé par nous dire que c'était faux. Après, on commence à nous dire non. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avions déjà enterré des gens précédemment comme ça. Donc,
merci.
Dans
d'accord.
un pays, dans ton pays, le pays de Pius, on vous prend, on vous jette dans un trou parce que vous êtes des gens inconnus.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, Cyprien, comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement congolais d'expulser Ida Sawyer?
D'abord, rapidement, je commence par dire que Pius n'a pas parlé comme journaliste. Évidemment, je n'ai pas le pouvoir de lui retirer cette qualité-là. C'est pas parce que il y a eu un mal qui s'est passé quelque part qu'il faut répondre par le mal. Moi, j'estime que la RDC, qui a cité et qui a signé et ratifié certains traités internationaux, doit aussi se conformer à cette réalité internationale. Supposons que Ida n'était pas, ou alors il savait, il fallait qu'on renouvelle quelque chose. Mais ça ne signifie pas qu'il fallait l'échapper. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est cette coïncidence miraculeuse. Plusieurs fois, quand on parle des questions des droits humains, les gens sont toujours expulsés. Peter vient de parler des Tempêles et opération Likofi. Et ce sont des choses qui font très mal. Nous, ici, au niveau de Kivu, on se dit, si le pays doit continuer sur cette lancée, en tout cas, ça ne sert à rien, ça ne servira vraiment à rien qu'on parle d'un état de droit. Or, nous sommes un état démocratique et nous prétendons être un état de droit. Pourquoi ne pas supporter? Pourquoi ne pas regarder en face les rapports qui sont effectués sur les réalités des droits humains au pays? Et donc moi, j'imagine que cette façon de faire, ça nous renvoie en contradiction avec nous-mêmes. Nous pensons que nous avons ratifié certains traités internationaux et au même moment, nous ne respectons pas ce que disent les conventions internationales par rapport aux droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, c'est le pilier de la vie. C'est au moins comme ça que nous on a compris la chose. C'est-à-dire, quelque part, le Congo cherche une chose et son contraire à la fois.
Merci. Pius, très très rapidement.
Je pense que je suis horrifié d'entendre le propos de mes collègues. Lorsque on se met dans une disposition de parler à mal de sa république, je veux rappeler à mon frère Tierney qui est à propos de fausses communes. Je suis d'abord un accrédité du ministère de l'Intérieur. J'en connais quelque chose. Il y a eu, mettez-vous en tête, ça je le dis en toute franchise, la République démocratique du Congo est sous un coup d'un complot. Tout ce qui peut se faire,
merci.
La République démocratique du Congo est nul et sans effet. Puisque, merci. En tant que gouvernement, lorsqu'un gouvernement refuse de renouveler le visa, ça rentre de sa prérogative.
D'accord.
Ou de ses prérogatives.
Alors on va donner
le gouvernement n'a pas d'injonction à recevoir d'un autre État.
D'accord.
Pour qu'on renouvelle le visa de telle ou telle autre personne.
Nous avons, très bien.
Nous avons nos confrères qui sont chassés des parts d'autres.
Mm-hmm.
C'est vrai, il y a des traités internationaux qui sont signés. Et lorsque, d'une part, on ne respecte pas les droits des Congolais, et il faut se le dire, nous sommes dans une diplomatie de réciprocité.
Merci.
On
alors,
fait du bien, nous faisons du
Peter,
bien, vous faites du mal, nous faisons
rapidement,
du mal.
Très rapidement.
C'est ça que je pouvais dire.
Pas un commentaire, juste peut-être une question. Le temps qui me restera puisse répondre à ma place. Poser la question à Pius, est-il normal, dans un pays où l'état des droits existe, de prendre des centaines de Congolais, de leur jeter dans un trou et de se targuer?
Merci beaucoup. Alors, Cyprien, un petit commentaire là-dessus?
Oui. Non, ça veut dire Pius ne peut pas s'en faire. Nous savons que le Congo est souverain. J'insiste encore, le Congo est un souverain, mais il a aussi ratifié certains traités internationaux. Ce n'est pas qu'on est contre les pays. Et moi, je regrette quand tu dis que quelqu'un parle mal contre son pays. Après tout, nous restons journalistes, évidemment. À part le fait d'être citoyen, on est quand même journalistes. On est géré par des principes de renommée ou alors des principes internationaux qui doivent, quelque part, rester équilibrés. Et moi, je me dis, à ce niveau-ci, franchement, si c'est une coïncidence, alors là, c'est une mauvaise coïncidence qui ne profiterait pas au Congo.
Merci. Très rapidement, messieurs, avant d'entrer dans notre premier thème, vous le savez, l'actualité, c'est aussi Bruno Mavungu a été remplacé par un autre secrétaire général qui a été nommé par Etienne Tshisekedi. Pius, un petit commentaire très rapidement.
Oui, lorsqu'on prétend être le père de la démocratie et diriger ce pays alors que dans son parti il n'y a pas la démocratie, ça devient de la contradiction.
Merci. Peter?
Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez en venir pour changer un secrétaire général. On a besoin de quelle démocratie? Lorsque vous savez partir, on a mis Mova, on a eu besoin de quelle démocratie? Moi, je ne sais pas comprendre. Quand si Kamer aujourd'hui veut mettre quelqu'un d'autre à la place de Wanga, il a besoin de la démocratie de la majorité. Moi, je ne sais pas comprendre ça. C'est ce qu'il dit. Pour que les choses marchent bien, je nomme un autre secrétaire. Il fallait qu'il y ait une élection pour ça.
Merci. Cyprien, un petit commentaire sur le changement à la tête de l'UDPS.
Oui, il n'y a pas que l'UDPS, mais aussi il y a d'autres partis de l'opposition qui réclament l'alternance, mais malheureusement, il y a 10, 5, 25 ans, c'est le même gens qui dirigent. Et là, c'est tout à fait contradictoire. Et donc, moi, je me dis, ces gens-là, ils doivent faire un effort de respecter les textes qui régissent leur structure politique.
Merci beaucoup. Et tout de suite, nous commençons notre premier thème de la soirée qui concerne la déclaration du président de la République. Joseph Kabila a déclaré la semaine dernière qu'il n'y aura pas de calendrier électoral avant le mois de juin 2017. Joseph Kabila l'a déclaré au cours d'une conférence de presse à Kasese en Ouganda. On écoute le président de la République dans cet extrait recueilli par Papi Martial Mukeba.
Les élections sont organisées par une commission électorale indépendante. Et pour organiser les élections, on a besoin de ce qu'on appelle un fichier électoral. Et pour avoir les fichiers électoraux, il faut organiser l'enrôlement des électeurs. Maintenant, cela est un processus pour organiser les élections. Pour le moment, nous avons débuté l'enrôlement des électeurs depuis le 31 juillet. C'est un processus qui prendra du temps jusqu'à ce que nous ayons un fichier électoral et dès que ce fichier est disponible, alors un calendrier électoral sera publié. C'est comme ça que les élections sont organisées. Donc, soyez attentifs, car lorsque la date sera fixée par la CENI, je serai le premier à l'annoncer et vous en serez informé.
En réaction, la dynamique de l'opposition s'est étonnée que le chef de l'État se soit substitué à la CENI en violant intentionnellement l'article 211 de la Constitution et l'accuse d'instrumentaliser les institutions de la République. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, sachez que Berry Franklin Louchaka, qui vous présente cette tribune de presse, reçoit dans ce studio Pius Roland Romain, journaliste et rédacteur en chef adjoint au journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, Peter Tiani, directeur général du Vrai Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias de Kinshasa, et en province, Cyprien Lusenge, qui intervient à partir des studios de Radio Kapi à Goma, et journaliste et rédacteur en chef à la radio-télévision Michapi, un média qui émet à Goma dans la province du Nord Kivu. Messieurs, je vais vous poser une question. Comment vous avez analysé les propos du chef de l'État que vous venez d'écouter, Pius?
Écoutez, j'ai suivi les réactions sur certaines chaînes de télévision où certains acteurs politiques interdisent même au chef de l'État de dire la marche de la République. Ils pensent qu'il n'y a que eux qui détiennent le monopole de la vérité. Je viens de suivre le son. Que ce soit en anglais, que j'entends bien l'anglais, et que ce soit la traduction en français, le président n'a rien dit de mal. Il a donné le processus de cheminement. Et lequel processus commence par l'enrôlement, du fait que nous n'avons pas un fichier électoral, de l'enrôlement, on va arriver à produire le calendrier. Et avant de produire le calendrier, il faut que l'Assemblée nationale siège pour attribuer le siège à pourvoir aux élections. Et les sièges sont attribués en fonction des nombres d'électeurs.
Mais est-ce qu'il appartient au chef de l'État finalement de pouvoir faire ce genre d'annonce?
En dehors de lui, qui est le garant de la nation? Moi, j'ai l'impression qu'on confond la démocratie. On pense que, comme on dit dans le parti politique, c'est comme ça qu'on doit dire dans les choses publiques de l'État. Il est chef de l'État.
Et c'est de son plein droit.
C'est de son plein droit. Il est chef de l'État.
Garant de la Constitution et de la Nation.
Et la CENI n'est qu'un organe technique d'appui à la démocratie.
Ok.
Qui dépend de l'Assemblée nationale.
Ok.
N'est-ce pas? Mm-hmm. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, puisque c'est la question qu'il fasse à l'heure actuelle. Mm-hmm. On veut ou on ne veut pas des élections, on veut de l'enrôlement ou on ne veut pas. Maintenant, on vous dit que depuis le 31 juillet, l'enrôlement a déjà débuté. Est-ce que pouvons-nous produire un calendrier sans connaître le nombre d'électeurs?
Très bien. Peter, comment vous avez analysé les propos du chef de l'État?
Plus, d'abord, je suis étonné que le chef se...
Oui,
je suis très étonné que ce soit d'abord en anglais. Nous attendons le chef ici nous parler. Il va nous parler à l'étranger en anglais. D'abord, est-ce que je peux parler? Et tes apaisements, calme-toi. Il a parlé à l'étranger en anglais. Ce qui me sidère, premièrement.
Donc pour vous, c'était un message qui était destiné à la communauté internationale, puisque c'est en anglais.
Deuxième aspect. Le chef de l'État est garant de la nation, de la Constitution, vous l'avez dit. Il ne peut pas violer la Constitution. Qui le protège, lui, le chef de l'État. Calme-toi. Calme-toi. Si justement, si tu ne m'entends pas, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Laisse-moi le temps de te parler.
Très rapidement.
Il ne peut pas violer la Constitution dont il est garant. L'article 73 de la Constitution est clair par rapport à l'organisation des élections. Je suis en train de parler aux auditeurs, Pius. Tu peux lire. Moi, je ne suis pas venu t'enseigner la Constitution ici. L'article 73 de la Constitution est clair. Quand est-ce qu'on convoque l'élection présidentielle? Le chef de l'État ne peut pas nous dire que les élections, le processus, l'enrôlement jusqu'à en 2017, et puis après, il va nous, c'est encore lui qui va nous annoncer.
Mais Peter,
ça veut dire, ce n'est même pas la CENI qui va nous annoncer, qui est habilité, mais c'est le chef de l'État qui usurpe même le pouvoir de la CENI de nous informer. Ça, c'est grave.
Mais Peter,
Peter,
une minute, s'il vous plaît. Mais en même temps, lorsque nous entendons le chef de l'État tel qu'il a fait sa déclaration, dans les milieux de certains analystes, on estime que c'est déjà entendu. C'est le même discours qu'on a l'habitude d'entendre de la part des ceux qui sont de la majorité.
C'est grave parce que, en tant que garant de la nation, le chef de l'État sait que l'Assemblée nationale budgétisait de côté une somme pour l'organisation des élections. Le chef de l'État sait qu'en 2016, c'est la fin de son mandat. Le chef de l'État sait que l'article 70 de la Constitution dit qu'il est élu une fois au suffrage universel, le mandat est renouvelable une seule fois. Le chef de l'État a 10 ans de mandat. Deux mandats qui fait 10 ans. Il n'a pas 10 ans et un jour. Ça veut dire que dépasser le 10 ans, le chef de l'État, selon la Constitution, n'a plus de légitimité.
D'accord.
C'est ça le problème.
D'accord.
Alors le chef de l'État ne peut pas être jugé parti pour dire « je suis encore là jusqu'à l'année prochaine ». Tenez, pour finir, il y a eu trop de faux pas, parce qu'on a appelé au dialogue. Mais il y a eu trop de faux pas pour vider même le dialogue de tout son sens. Pendant qu'on appelle au dialogue, les députés vont pendant que je suis en train de développer, pendant qu'on appelle au dialogue, les députés vont de la majorité à la Cour constitutionnelle. Ils ont c'est Bitakuira, c'est les Bitakuira. Ils ont une loi là-bas où la Cour constitutionnelle donne un chèque en blanc, un mandat cadeau. Ensuite, aujourd'hui encore avec il renouvelle avec son dialogue ou avec le rassemblement qui est partant. Et vous avez le chef de l'État qui dit non, bon, les élections c'est après l'enrôlement.
D'accord.
C'est-à-dire, même si on va dans ce dialogue-là, sachez que ça ne va pas aboutir à la résolution 2277. Est-ce que le dialogue n'est pas vidé de tout son sens?
Très bien, voilà. Alors, Cyprien, vous êtes à Goma. Comment vous avez analysé les propos du chef de l'État?
Franchement, à Goma et au Nord Kivu, c'est encore une fois une déception de plus. Quand le chef de l'État dit lui-même qu'il sera le numéro 1 à nous annoncer. On ne comprend pas. Ou alors, la CENI n'a pas sa raison d'être. Si la CENI est une institution indépendante, une institution qui est d'appui à la démocratie, pourquoi ne pas lui laisser le temps de faire son travail et elle-même prendre le courage de nous annoncer? Il n'y a pas longtemps, Corneille Nangaa est passé ici à Goma. Il nous a dit que c'est pratiquement impossible. Finalement, moi, je me dis, mais c'est ping-pong. Qui fait quoi? Et qui fait quoi? Qui finance quoi dans cette CENI? Et moi, je me dis, si j'étais sérieux, si ceux-là qui dirigent la CENI, compte tenu des discours du chef de l'État, franchement, il démissionnerait et on attendrait tout simplement et bonnement ce que le chef de l'État nous donne et nous dise quand ça va aller. C'est vrai, les discours étaient en anglais, mais au moins il y a une traduction. Quand vous vous imaginez, le chef de l'État dit que le processus électoral doit continuer et que ce sera à lui de nous dire, il sera le numéro 1 à nous annoncer ce qui suivra après. Franchement, c'est décevant. Dans quel pays au monde, Franklin, entre nous, nous soyons sérieux, en tant que journalistes, nous avons suivi les informations partout. Dans quel pays au monde, on peut annoncer un calendrier électoral à haute voix? Vous l'annoncez tambour battant et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. On annonce les élections, on annonce le calendrier, et d'ailleurs certains opposants ont dit que c'était un calendrier surchargé, et finalement on a compris que c'était la réalité. On prend même la caution. Je me passe de ces détails et de tout ce qui s'est passé. Franchement, les discours du chef de l'État, moi personnellement, en tant que journaliste, et vu certaines revues et certaines lectures que j'ai faites, je me rends compte que c'est un discours décevant. Il faut qu'on arrive réellement à remettre à la CENI son pouvoir, et pour que cette CENI gagne notre confiance. C'est tout ce que nous avons à constater ici au Nord Kivu, parce qu'on se rend compte que finalement, la commission électorale nationale indépendante n'a pas de pouvoir.
D'accord.
N'a
alors,
rien à dire.
Alors,
tout dépend des chefs de l'État.
Cyprien, Peter était en train d'évoquer ici que le contenu même, la quintessence même du dialogue était en train de s'effriter. Est-ce que vous partagez le même sentiment?
Mais vous voulez quoi? Exactement, c'est ce que j'allais aussi dire. Parce que ce dialogue est devenu comme un passage obligé. Et puis malheureusement, un dialogue que les uns réfutent, les autres acceptent, et un matin on accepte, les autres. Et donc c'est très très compliqué. Moi je me dis, ce dialogue qu'on est en train de préparer, c'est bon, il faut dialoguer. C'est parmi les valeurs africaines. Mais pour dire quoi? Le contenu c'est quoi? Pour quelle finalité? C'est ce qui me déçoit.
Plus, Roland, il y a aussi la dynamique de l'opposition qui a estimé que le vrai problème pour ce pays, c'est le président lui-même, Joseph Kabila. Comment vous analysez cela?
Permettez-moi d'abord de rebondir sur le premier aspect.
Il n'y a pas de problème.
Où on interdit au chef de l'État de parler, et vous vous souvenez, il faut d'abord contextualiser l'environnement dans lequel il a parlé. C'est à l'étranger, où il y a des Congolais qui sont en Ouganda, où tout le monde qui est ici et réclame à corps et à cri que la diaspora doit voter. La CENI a un champ limité. Le chef de l'État n'a pas un champ limité. Je suis sidéré d'entendre que le chef de l'État a violé la Constitution, l'article 73, alors que le contexte ne le permet pas. Dans ce contexte actuel de son discours, ne le permet pas. Ça, c'est un. De deux, lorsque j'entends que le chef de l'État a dit ceci, pour violer telle disposition constitutionnelle, de quel droit l'opposition... De quel droit l'opposition avait-elle les prérogatives de récuser le premier calendrier, le deuxième calendrier, avec la bénédiction de la communauté internationale? Qui est le président de la communauté internationale? Voilà les choses que nous, en tant que patriotes, bien que je sois journaliste, devons nous combattre. Puisque premièrement, n'est-ce pas, il y a l'incivisme qui s'est créé autour des dirigeants politiques de ce pays. Lorsqu'on dit que Kabila est le problème, il est le problème par rapport à quoi? Lorsqu'il dit qu'il y aura élection, c'est pour...
Par rapport au respect de la Constitution.
Je le dis ici, si ça dépendait de moi, je mets tout le monde à défi.
Oui.
Il y a Tshibangu Kalala et Christophe Lutundula. Je dispose de ces propositions de loi. Hier, vous avez ignoré que l'UDPS, avec certains de ses partenaires, ont insulté la Constitution.
Ça,
s'il vous plaît, s'il vous plaît, tu as rebondi sur certains aspects, tu as dit c'est pour acheminer. Cette Constitution a été foulée aux pieds par ceux qui les défendent aujourd'hui.
C'est comme ça que vous aussi...
S'il vous plaît, personne ne les foule aux pieds. Le chef de l'État a ses prérogatives de s'adresser aux compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Et c'était dans un point de presse, on lui a posé la question sur l'organisation des élections. Et si le chef de l'État n'avait pas dit mot, ça serait encore catastrophique, puisqu'il suffit que Kabila tousse à gauche, l'opposition crie à droite. Maintenant, revenons-nous. À ce que la dynamique, je n'ai pas bien compris la question.
La dynamique dit que le président Kabila est le problème pour ce pays.
Mais justement, puisque tout le monde veut être président de la République, même si on n'a pas une base assise, tout le monde veut être président de la République. Quoi de plus normal?
D'accord.
Qu'on convoite le siège du président de la République. Mais le problème, c'est lequel? En réalité, aucun acteur politique ne veut des élections au Congo.
Très bien.
Nous les
merci
côtoyons
beaucoup.
Matin, midi,
on a compris votre préoccupation. Avant que je ne vous donne la parole, Peter, vous savez aussi que le collectif des 33 ONG a publié un communiqué le lundi dernier. Dans ce communiqué, le collectif des ONG demande à la MONUSCO de cesser d'apporter son appui technique à la CENI. Ces organisations indiquent que les opérations d'enrôlement des électeurs conduite par la Commission électorale nationale indépendante dans le nord Ubangi ne respecte pas la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la MONUSCO, elle, affirme que son soutien au processus électoral en RDC s'inscrit dans la droite ligne de cette résolution. Tout en réagissant aux propos de Pius, Peter, vous avez la parole.
Pius,
en analysant aussi le
il
contenu...
Il ne faut pas être sidéré des réflexions, mais il faut être sidéré quand c'est lui qui est censé faire respecter la Constitution, ne donne pas des signaux forts pour respecter la même Constitution. Cette Constitution... Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler?
Pius, nous avons un chronogramme. Pius, s'il vous plaît, nous avons un chronogramme. Les minutes vont s'égrener bientôt. Peter, vous avez la parole.
90 jours avant la fin du mandat, le corps électoral est convoqué. Article 73 de la Constitution.
Qui a refusé le premier calendrier?
Ça veut dire que vous, vous gérez le pays sur base des réactions de l'opposition. Donc vous êtes incapable d'organiser les élections parce que l'opposition refuse des choses.
Ce alors, dites, maintenant,
On a même perçu de l'argent. Les députés provinciaux ici et on n'a pas organisé les élections parce que l'opposition a refusé. Mais ça c'est grave. Ça veut dire que vous vous dirigez le pays sur base des réactions de l'opposition. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas digne. Mais oui, parce que gouverner c'est prévoir, monsieur. Ça veut dire qu'on devait prévoir l'organisation des élections en 2016. Si on ne l'a pas prévu, ça veut dire qu'on n'est pas à sa place. C'est ça la réalité.
Alors, Peter, les propos maintenant.
Il y a un document qui te protège, qui me protège, qui protège le chef de l'État, qui protège Matata Ponyo, tout le monde. Ça s'appelle la Constitution. Ce document-là. Plus, tu es journaliste, tu connais l'histoire de ce pays. Il y a eu le sang dans ce pays. Les gens sont allés à Sun City.
Alors,
pour que ce problème de... Si vous lisez... Dommage que vous n'avez pas le temps de lire
Peter,
la Constitution. Mais si vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution, vous comprendrez que les gens sont allés à Sun City. Parce qu'il y a eu beaucoup de sang, parce qu'il y a eu un problème de crise de légitimité. Il ne faudrait pas que Joseph Kabila nous remette avant Sun City. Parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il n'y a pas les élections en 2016, puis on se peut surgir d'un coin pour dire que Kabila, tu n'es plus légitime. Kabila peut entrer dans l'histoire de ce pays. S'il bouge ses oreilles avec Pius et sa bande.
Merci beaucoup, je vais donner la parole. Voilà.
Donc, laissez-moi donner la parole maintenant à Cyprien. Par rapport au 31G, donc... Justement, quand on organise l'enrôlement, c'est sur base de la Constitution.
Alors, cher confrère, laissez-moi donner la parole aussi à Cyprien.
Tu vas donner la parole. S'il faudrait que mon temps de parole se finisse, mais il faudrait qu'on fasse une chose.
Nous avons un deuxième thème à aborder.
Justement, Pius a dit,
s'il vous plaît.
Est-ce que je peux parler?
Allons-y.
Pius a dit que le chef de l'État a parlé. Il faut comprendre le contexte du chef de l'État. On lui avait posé une question, il devait parler. Oui! Mais en parlant, il ne peut pas violer la Constitution.
Très bien.
Il y a quelque chose que... Il a violé la disposition... Je vais te le dire combien de fois.
Alors, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant.
De la Constitution qui dit Constitution. Que le corps électoral... Mais tu ne sais pas que l'article 63... Mais si je discute avec quelqu'un qui ne lit pas la Constitution, je vais te réciter cet article.
Merci. S'il vous plaît. Maintenant.
Mais tu ne connais pas même le contenu de l'article 63. Tu ne connais même pas le contenu de l'article 63. L'article 73 dit que le corps électoral est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Tu ne le sais pas.
Merci beaucoup. Alors, laissez-moi donner la parole.
Commence par lire ça. Ben voilà, 90 jours. C'est 90 jours.
Mais nous sommes dans le processus.
On se calme, cher confrère. S'il vous plaît, cher confrère, on se calme.
Si ce n'est pas 90 jours, on est en dehors de la Constitution.
Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais demander à Joël de couper les micros.
Ça veut dire qu'il doit respecter la Constitution, vrai ou faux?
Merci beaucoup. Alors, si Cyprien, vous avez entendu les propos des uns et des autres ici. Quelle est votre analyse, surtout en tenant compte de la demande du collectif des 33 ONG qui demande à la MONUSCO de ne plus appuyer la CENI parce que les opérations de la CENI sont contraires à la résolution 2277.
Mais je commence comme par regretter la tension qu'il y a au studio entre les confrères. Néanmoins, dire de ne pas appuyer la CENI, ce n'est pas aussi correct. Moi, je suggère que le chef de l'État, lui attaqué garant de la nation, donne suffisamment de moyens à la CENI pour que la CENI fasse correctement son travail. Et là, nous éviterons de refaire des calendriers. Parce qu'on va encore refaire des calendriers et on ira des calendriers à calendrier sans rien faire. J'estime que tous les partenaires qui peuvent soutenir la RDC dans ses démarches vers la démocratie, en tout cas, ces partenaires-là seront les bienvenus, évidemment, avec l'appui du chef de l'État, lui qui est le garant de la nation, pour faciliter la tâche à la CENI, pour que cette CENI, en fait, gagne la confiance de la population congolaise.
Et est-ce que vous pensez que cette demande de ces 33 ONG peut être entendue par les Nations Unies?
Oui, c'est possible. La demande peut être entendue si elle est soutenue. Si c'est fondé, pourquoi pas n'est pas? Parce qu'en fait, moi j'estime que les Nations Unies, toutes les institutions du monde veulent que la paix règne, veulent que toutes les élections soient apaisées, transparente et crédible et que tout le monde se retrouve dans ces élections-là. Je crois que ça peut aller, ça peut être possible. Je reste optimiste.
Merci beaucoup. Alors, oui, très rapidement, vous n'avez pas répondu à ce volet de la question Pius, s'il vous plaît. Oui. Très rapidement, n'entrons pas dans cette guéguerre qu'on a connue tout de suite là. Oui. Est-ce que vous pensez que la démarche du collectif des 33 ONG est valable en ce moment?
Je suis journaliste, je suis investigateur. Qui va le reporter parmi ces 33 ONG, on connaît la coloration de certains qui animent ces ONG. Et je pense que Cyprien a bien dit, on demande une chose et le contraire à la fois. Vous voulez les élections? Et j'entends dire que le chef de l'État doit donner le moyen. Ça, c'est une bourde. Il y a un gouvernement. Ce n'est pas la présidence qui donne le moyen. Il y a un gouvernement qui donne le moyen. Les opérations d'enrôlement ont déjà commencé. Je ne sais pas si ces opérations ont commencé sans moyen, alors que, soit c'est le concept processus qu'on est contre.
Monsieur, il y a eu un problème de moyens.
Merci beaucoup.
S'il vous plaît. Les opérations...
L'Assemblée nationale budgétise un moyen que le gouvernement n'a pas...
Quand on budgétise, c'est une prévision. Oui. Ce n'est pas l'argent qui se trouve dans une caisse, quelque part.
De la primature plus de 100% et de la CENI moins de 30%.
Si prochainement, vous m'invitez pour discuter des tralala, je ne viendrai pas. Je veux élever le débat. Lorsque les 33 ONG demandent à la MONUSCO de ne pas appuyer la République démocratique du Congo, ok. Et en amont ou en aval, on demande les élections. Allez-y comprendre qu'est-ce que le Congolais veut au juste.
Merci beaucoup. Il nous reste pratiquement 7 minutes environ pour finir cette émission. Nous allons passer à notre deuxième thème de notre soirée qui concerne les dossiers sécurité au Kasaï central. Justement, dans cette partie du pays, les forces de l'ordre contrôlent la ville de Chimbulu depuis mercredi soir. Et elle sensibilise les habitants à vaquer librement à leurs activités. Je rappelle quand même que la deuxième ville du Kasaï central, après Kananga, était secouée depuis le week-end dernier par la milice du chef coutumier Kamuina Nsapu. Sur place à Kananga, les députés nationaux poursuivent leurs consultations et une délégation du gouvernorat de Sankuru confirme avoir été fouillée, puis libérée les éléments de Kamuina Nsapu. Plus de détails avec vous, André Kambala.
Arrivés depuis hier soir à Chimbulu, les éléments de la police et des FRDC ont été accueillis par une population à moitié apeurée. C'est ainsi que le groupe mobile d'intervention sensibilise la population au calme selon la société civile. Jusqu'ici, la personne menacée de mort, d'après l'ONG Journaliste en danger, reste le journaliste Fabrice Mfamba qui est intervenu sur nos antennes hier soir. Des sources concordantes indiquent qu'avant d'atteindre Chimbulu, les militaires se sont affrontés aux miliciens dans la périphérie de la mission catholique Chikula, mais jusqu'ici, il n'y a pas de bilan. Dans l'informel, il y a eu des pertes de part et d'autre. Quant au sort du chef Kamuina Nsapu, les antennes des ONG de défense des droits de l'homme contactées sur l'axe Chikula sont divisées. Les unes disent qu'il a fui, les autres confirment qu'il est toujours chez lui dans sa chefferie. Une délégation du gouvernorat de la province du Sankuru arrivée par route ce jeudi après-midi à Kananga indique avoir été fouillée de fond en comble par les miliciens de Kamuina Nsapu dans l'étape du secteur de Dibaya.
Merci beaucoup. Toutes nos excuses. C'était bel et bien Marco Mulumba et non André Kambala. Alors, Peter, vous avez suivi cette actualité avec Chimbulu. Comment vous avez analysé cette situation?
Je constate seulement que... Ce problème de manque de la présence de l'autorité de l'État à divers endroits dans le pays. Déjà au niveau de la capitale, on a un sérieux problème de la présence de l'État. Il y a des endroits où vous arrivez, vous avez l'impression que c'est un no-man's land où il n'y a pas d'État. Moi j'étais à l'intérieur du pays, c'est quand même dommage. Cette situation vient de s'ajouter à celle vécue depuis Bellerette au niveau de l'Est de la République. Et ça prouve à suffisance qu'à un moment de l'histoire de notre pays, il faudrait que les gens essaient de faire du remue-ménage, se regarder sur le miroir et se dire que est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on a fait piètre figure. Bon, si on a réussi, on peut passer le flambeau en préservant la même famille politique, mais en passant le flambeau. Si on a échoué, on doit avoir par élégance. Parce que le Congolais meurt comme des chiens. Vous pouvez mourir aujourd'hui, personne ne va poser la question. Pas plus tard qu'hier, s'attirer au niveau de Bandal, on a découvert un corps sans vie devant le souci à ta Bandal. La population est fâchée, pourquoi? Parce que devant un souciat, on sous-entend qu'il faudrait qu'il y ait de la sécurité. Comment devant un souciat, il y a encore sans vie? Vous vous rendez compte? Au niveau de Mangafula, à Massangambila, il y a eu cette situation d'insécurité. On a cherché la police était absente. Et je félicite les amis de Massangambila, où les jeunes ont commencé à faire des patrouilles nocturnes eux-mêmes. Ils ont pu ramener la sécurité. Ça veut dire que l'État doit se faire sentir à divers endroits.
Très rapidement pour conclure, c'est parce dommage. Qu'on n'a plus beaucoup de temps. En conclusion,
à tous ceux qui ont pu nous suivre, les gens doivent savoir une seule chose, que les plus importants dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons, c'est un respect d'un engagement pris. Cet engagement pris qui nous protège tous s'appelle la Constitution. Cette Constitution qui protège du chef de l'État aux petits fonctionnaires ou aux petits journalistes que je suis. Alors nous devons respecter ce document, les engagements pris. Le contraire, je vais finir par là, parce qu'il y a trois aspects. Il faut éviter le cas Burundi en RDC. Il faut éviter le cas Côte d'Ivoire, il faut éviter le cas Burkina Faso.
Merci.
Joseph Kabila peut choisir la voie de ce qui vient de se faire au Ghana, au Sénégal,
merci
et faire
beaucoup.
Un passage civilisé de Plombo.
D'accord, très bien. Pius, tout en analysant la situation de Chimbulu, vous allez aussi conclure parce qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission.
Oui, j'ai entendu qu'il n'y a pas l'autorité d'État à Chimbulu et que l'État doit se faire sentir. Malheureusement, dans le reportage, j'apprends que c'est un chef traditionnel. Donc un chef traditionnel,
un chef coutumier
qui a des sujets, qui s'est rebellé, qui est par surcroît sous l'emprise de l'État congolais. Alors lorsqu'on demande que l'État,
rapidement, on est en train de conclure l'émission. Pius, s'il te plaît.
Celui qui s'est rebellé, qui a créé la milice, c'est un chef coutumier. Un chef coutumier a un statut de l'État. Donc c'est l'État qui s'est rebellé, n'est-ce pas? Et lorsque j'apprends qu'il n'y a pas la présence de l'État, alors que c'est l'État qui s'est rebellé, ce que moi je peux dire, c'est que ce chef milicien, le chef coutumier, doit être déféré à la justice.
En conclusion,
c'est ça ce que je peux dire. Je ne dis pas que j'applaudis ce qu'on a tué. Il doit être déféré la justice et tous ceux qui ont créé cette petite rébellion doivent être déférés devant la justice. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Le chef de l'État est dans ses prérogatives de s'adresser aux Congolais de la diaspora qui sont en Ouganda, qui ont le droit de voter la marche de la République, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De deux, j'en appelle aux acteurs politiques congolais de soutenir l'enrôlement et d'accepter d'aller aux élections de la base au sommet.
Merci beaucoup. Cyprien, vous qui êtes à Goma, c'est quand même une première d'entendre qu'il y a une milice dans la partie centrale du pays. Comment vous avez analysé cela et très rapidement concluez aussi?
En tout cas pour nous, ici au Nord Kivu, c'était une grande déception parce qu'on ne comprend pas comment finalement tout le monde au pays peut se comporter comme, on dirait, dans des champs de maïs où chacun a sa barbe. Je crois, ça c'est un défi que les citoyens congolais veulent imposer à l'État congolais lui-même. Et là, c'est là que je dis opposition ou pas opposition, cette fois-ci, dans des cas de tuerie comme ça, il faut qu'on s'unisse et qu'on mette fin. Vous imaginez ce qui se passe au niveau du Nord Kivu, Bouleoussa, etc., Beni, voilà, mais la Chimbulu dans le Kassai. C'est très compliqué. Moi, je pense que nous devons plus aimer notre pays en évitant des antivaleurs. En nous écartant de ce qui peut nous diviser. Encore une fois, on dit l'union fait la force. C'est parce que même si nous crions le gouvernement, le chef de l'État, il ne peut rien faire seul, sans nous. Donc nous, comme citoyens, nous avons intérêt à soutenir notre pays et l'aimer et le protéger par tous les moyens.
Je prendrai ça aussi pour votre conclusion et c'est la fin de la tribune de presse de ce vendredi 12 août 2016. Je dis merci à Guy Maté qui m'a aidé à préparer cette émission, Pelé Kipelamondo qui l'a supervisé, Jean-Noël Mokono qui était la technique. Merci et n'hésitez pas à nous faire vos suggestions et remarques en nous écrivant à dec@razwekapi.net. Excellent week-end à tous et surtout, on se retrouve la semaine prochaine.